Bonsoir à toutes et à tous. Dans ce nouveau volet des crimes célèbres, nous partons à la rencontre d'un serial killer. Surnommé le tueur de l'Est parisien, il fait naître une des plus grandes psychoses collectives dans Paris et toute la France. Il s'agit de Guy Georges. Il compte dans son parcours criminel 7 meurtres. Tout de suite, Histoire nocturne. Les rues d'une ville sont parfois reliées les unes aux autres par un chemin de sang. Ainsi, la rue des Mariniers, la rue de l'Ambre et la rue des Tournelles. Ou bien la rue de la Forge Royale, la rue Saint-Sulpice et la rue du Faubourg Saint-Honoré. Ou encore la rue du Faubourg Saint-Martin et le boulevard Blanqui et le boulevard de Reuilly. La balade sanglante de Guy Georges compte 7 femmes assassinées dans différents lieux parisiens. Dont 2 auraient pu échapper au tueur si un fichier central regroupant les empreintes digitales des délinquants sexuels avait été créé plus tôt. On l'a surnommé le tueur de l'Est parisien. Et aussi la bête de la Bastille, après qu'il ait eu violé et égorgé une jeune Hollandaise de 33 ans, architecte d'intérieur dans son duplex du quartier de la Bastille, Faubourg Saint-Antoine, dans le 11e arrondissement. On aurait pu lui donner d'autres noms plus horribles dans les nombreux quartiers où il a semé la terreur. Après des années de traque, d'angoisse et de psychose collective, les équipes de la criminelle finissent par l'identifier grâce à son ADN. L'Opinel 12 de Guy Georges a égorgé sa première victime à Paris en janvier 1991. Son abominable carrière cessera avec celle de son propriétaire, arrêté en mai 1998. Guy Rampillon, du nom de sa mère, est né en 1962 à Vitry-le-François, des amours sans lendemain d'une Française et d'un soldat afro-américain déjà marié aux États-Unis. Sa mère le rejette, ses grands-parents n'en veulent pas à cause de sa couleur de peau. Un petit métis, non merci. Son père, lui, disparaît sans crier gare. Une famille adoptive accueille le petit Guy, âgé à peine d'un an, dans la banlieue d'Angers. Il y a déjà 13 enfants dans la maison. Comparé à la sienne, l'enfance du petit poussé est un modèle de bonheur et d'équilibre. Mais son héros, à lui, n'est pas le petit poussé, c'est Joe l'Indien, l'ami criminel de Tom Sawyer. Entre 14 ans et 16 ans, celui qui est devenu Guy Georges, du prénom de son père, se fait la main sur 2 de ses sœurs adoptives, dont l'une est handicapée mentale, en tentant de les étrangler. Sa carrière officielle démarre en 1979. Il agresse des jeunes filles avec un Opinel 12 qui va devenir sa signature, sa marque de fabrique, celle aussi de Joe le Killer, surnom dont il s'affabulera en hommage morbide à Mark Twain. Dès 1979, tout est en place à la tête du délinquant sexuel pour que l'horreur s'accomplisse toujours avec la même minutie, la même rigueur obsessionnelle. Et elle s'accomplira. L'enfer d'un délinquant ne commence pas toujours dès son entrée en prison. Le pire peut arriver à la sortie, c'est ce qui se produisit pour le jeune Guy. À sa sortie de prison, où il a passé une semaine pour sa première agression, sa famille adoptive le rejette. Elle a déjà compris qu'il n'y a rien à attendre d'un tempérament si violent, si pervers. Et pense peut-être qu'un jour, il commettra l'irréparable. La justice le libère, sa famille le renie. Désormais, il vit seul, confronté à son enfance ravagée, à son avenir compromis, livré à ses angoisses, ses instincts, ses pulsions. La descente aux enfers semble programmée. Entre déprime et crise de folie, il va violer, poignarder, être emprisonné. Il sort de prison, viole à nouveau, poignarde, retourne en prison, puis retrouve la liberté. Un cercle infernal où le vice est érigé en concept, où l'homme devient autre chose qu'un homme emporté dans son propre vertige. Dans les années 1980, il viole, saigne ses victimes mais ne les tue pas. Comme s'il s'entraînait avant de porter l'estocade. Nathalie, en 1981, rue des Mariniers, dans le 14e arrondissement, qu'il laisse pour morte dans le parking de son immeuble. Violette, en 1982, avenue Foch, sauvée in extremis par un gardien de nuit alerté par les cris qu'elle pousse. S'il est souvent arrêté, les enquêtes n'aboutissant pas faute de preuves. Ses peines de prison ne sont jamais très lourdes. Mais la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle va frapper un grand coup en le condamnant à 10 ans d'emprisonnement qu'il effectue à la prison de Caen, un établissement réservé aux délinquants sexuels. Il y jouit d'un régime de semi-liberté. Chaque soir, il doit rentrer pour dormir derrière les barreaux. Un traitement trop clément pour lui. Les juges n'ont pas encore mesuré la dangerosité de l'individu. Un soir, il décide de ne pas revenir en prison et il s'enfuit à Paris. Paris, capitale du crime. Tout bascule la nuit du 24 janvier 1991, rue de l'Ambre. Il repère la jeune Pascal, étudiante de 19 ans, dans une brasserie de la place Edgar Quinet, la suit, pénètre avec elle dans son appartement, la viole, lui tranche la gorge. Guy Georges vient de tuer pour la première fois. C'est l'ouverture d'une chasse qui va durer 7 ans, la répétition générale d'une cérémonie qui sera chaque fois orchestrée de la même façon, scrupuleusement. L'assassin repère sa proie, la suit jusqu'à son domicile ou dans son parking, l'attaque avec son Opinel 12, coupe son soutien-gorge entre les bonnets, la viole, la tue. C'est toujours le même rituel macabre, la même mise en scène sacrificielle. Le théâtre des opérations n'a ni limite ni frontière. Il est totalement ouvert, imprévisible, car le lieu compte moins que la reproduction de la cérémonie. Peu importe l'hôtel, pourvu que le sacrifice s'accomplisse. Guy Georges sévit près de la place de la Bastille, autour de la place Saint-Sulpice et de la place d'Italie, mais aussi vers le boulevard Blanqui ou le boulevard Malesherbes. L'homme est devenu une implacable machine à tuer. Dans son cerveau malade, les noms de ses victimes répondent en écho aux noms des rues. Catherine R, Elsa B, Agnès N, Annie L, Elisabeth O, Hélène F, Mélanie B, Estelle F, Magali S, Leila T. Dans la vie très scandée du tueur en série, il y a un temps pour tuer et un autre pour travailler. Guy Georges organise sa vie sociale, il obtient le RMI, travaille comme bénévole pour l'association caritative Saint-Vincent-de-Paul. Avec un peu de prostitution et de vol chez les commerçants pour boucler les fins de mois. Puis il devient balayeur pour la mairie de Paris, manutentionnaire, distributeur de prospectus. Ceux qui le côtoient ne soupçonnent pas cet homme plutôt amical et rigolard, d'autant qu'il est le premier à s'écrier « Oh, quel salopard !» quand ils évoquent entre eux les méfaits du tueur abondamment relayés par la presse. En attendant, le salaud court toujours. La police criminelle s'accroche de plus en plus sérieusement à l'hypothèse d'un tueur en série, mais n'ayant que deux traces ADN laissées sur les lieux du crime et en l'absence d'un fichier central d'empreintes génétiques, l'enquête piétine. D'autant que son portrait robot le décrit comme étant de type maghrébin alors qu'il est métisse noir. Pourtant, plusieurs femmes qui sont parvenues à s'extraire de ses griffes ont vu son visage, ses yeux noirs et perçants, sa trogne où l'on est parfois tenté de voir naître un léger sourire machiavélique. Mais il passera de nombreuses fois entre les mailles du filet. En août 1995, ne doutant de rien, il se rend au commissariat pour réclamer son portefeuille que sa dernière agression ratée l'a contraint à abandonner sur place. Il est identifié, arrêté, condamné à 3 mois de prison pour agression, mais la nature sexuelle de ses attaques n'est même pas mentionnée. Son visage ne correspond pas au portrait robot. Il échappe au test ADN et sort de prison en juillet 1997. En novembre de la même année, c'est le meurtre de trop. Estelle M. clôt la série sanglante, violée et tuée à son tour. Les médias s'emballent, les parents des victimes sortent de leur souffrance et exigent que tout soit fait pour que ce monstre soit mis hors d'état de nuire. L'enquête, comme souvent pénalisée par des rivalités entre services de police, établit enfin un lien entre les traces ADN. À la requête du juge Gilbert Thiel, qui ordonne à tous les laboratoires de comparer les empreintes génétiques, les responsables d'un laboratoire de Nantes identifient Guy Georges le 25 mars 1998. Il sera arrêté à Paris, près du métro Blanche. Condamné en 2001 pour 7 meurtres et 3 agressions sexuelles par la cour d'assises de Paris, Guy Georges, après avoir avoué un à un tous ses crimes et demandé pardon, est condamné à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Elisabeth Guigou, garde des Sceaux à l'époque, décide de mettre en place un fichier central regroupant toutes les empreintes génétiques des délinquants sexuels. Il aura fallu presque 20 ans et une cascade d'erreurs et d'oublis de la part de la justice et de la police pour que le chemin du tueur de l'Est parisien remonte de la rue des Mariniers à la place Vendôme. Aujourd'hui, Guy Georges est derrière les barreaux. En 2020, la loi l'autorisera à solliciter une libération conditionnelle. La question, que décidera la justice, qu'il faut toujours s'efforcer de rendre dans la crainte et le tremblement. C'était Histoire Nocturne. Sachez qu'à compter de la semaine prochaine, nous changeons d'ouvrage. Des crimes célèbres, nous passons aux crimes passionnels. Je vous en dis plus au prochain rendez-vous. D'ici là, je vous la souhaite douce et bonne. Cette nuit, bien sûr. Bye bye.